there till the end.
He's gonna be there till the end.
Radio de la paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures, Mel Emmanuel.
7 heures dans nos belles régions ivoiriennes et en temps universel. Merci de choisir Radio de la Paix. Élections présidentielles de 2025. Les missions terrain de cartographie sont faites pour actualiser les lieux d'enrôlement et de vote et n'ont rien à voir avec le découpage électoral, déclare le président de la commission électorale indépendante CEI. Paiement des arriérés d'impôts fonciers. Le directeur général des impôts exhorte les salariés du secteur public et privé au civisme fiscal en payant leurs impôts dans les délais fixés par la loi. Passé ce délai, les procédures de recouvrement forcé seront mises en œuvre. Hors de notre pays, plus d'une semaine après l'effondrement d'une mine au Nigeria, il n'y aurait plus d'espoir de retrouver des mineurs vivants, déclarent les services d'urgence. Notre retour en Côte d'Ivoire se fera avec un tour d'horizon des titres de la presse ivoirienne assurée par Jean-Mélène Bitti. Et comme il est de coutume dans le 7 heures, l'invité de la rédaction refermera ce journal. Il s'agit du juriste et analyste politique Geoffroy-Julien Kouao. Et avec lui seront traités les possibles sujets que pourrait aborder le chef de l'État Alassane Ouattara lors de son allocution le 18 juin prochain devant le Congrès. Bonjour à toutes et à tous. Présidentielle de 2025, invité à RTI1 reçoit de la chaîne nationale hier mardi, le président de la commission électorale indépendante, CEI, s'est prêté aux questions des journalistes concernant le découpage électoral et l'opération de cartographie électorale. Ibrahim Kubiar Koulibaly a tenu à faire la lumière sur cette opération qui suscite des interrogations au sein des partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile. Nous l'écoutons.
Contrairement au découpage administratif, le découpage électoral a une vocation électorale. Il s'agit de subdiviser le territoire en circonscriptions électorales pour y effectuer les opérations électorales. Première chose, il faut rattacher un électeur à une circonscription. Et deuxième, il faut donner un poids à la circonscription électorale. D'ailleurs, il est bon de préciser qu'il n'y a que l'élection des parlementaires qui requiert un découpage électoral. Parce que l'élection du président de la République, c'est qu'une seule circonscription, c'est toute l'étendue du territoire. La loi dit que c'est la commission électorale qui prend l'initiative du découpage électoral. Alors quand on va sur le terrain pour constituer le répertoire de nos lieux de vote, on dit on s'en va faire un découpage électoral. Mais on ne fait pas un découpage électoral comme ça. Parce qu'il y a des lieux que nous utilisons qu'on appelle les lieux publics. C'est pour aller voir si les lieux où on va faire l'enrôlement, qui se trouvent être les lieux qui vont être finalement des bureaux de vote, si ces lieux-là sont fonctionnels avant nos opérations électorales. Si oui, on les garde. Sinon, on essaie de trouver des palliatifs. D'où l'intérêt de faire une mission de cartographie sur le terrain qui n'a rien à voir avec le découpage, encore moins le découpage électoral.
À l'instant, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubiar Koulibaly. Toujours sur les questions électorales, le groupement politique Alliance pour la démocratie et la paix, ADP, souhaite le report de la révision, de la liste électorale prévue de septembre-octobre 2024 au premier trimestre 2025 afin de prendre en compte le maximum de nouveaux majeurs. Les partis politiques membres de ce groupement l'ont exprimé lors d'une conférence de presse le 5 juin dernier à Abidjan sur les raisons de leur inquiétude. Écoutons le président de ce groupement, par ailleurs président du Parti pour l'intégration africaine, Jacob Mamadou Koulibaly.
Le 5 mai dernier, lors de l'atelier à Yamoussoukro, à notre COP pastoral, le président de la CEI nous a indiqué la période au cours de laquelle pourrait s'effectuer la révision de la liste électorale, entre septembre et octobre 2024. Et nous, cette période nous pose beaucoup de problèmes, parce que en octobre, nous sommes déjà à un an des élections présidentielles. Et commencer une opération de révision en octobre, cela voudrait dire que nous serons à la fin de l'opération au premier trimestre 2025. à 7 mois des élections présidentielles. Et nous avons souhaité que la CEI repose cette activité au premier trimestre 2025 pour permettre à la majorité des nouveaux majeurs qui auront atteint la majorité en 2025 de s'enrôler et participer à cette élection. Et tenez-vous bien, le Code électoral précise également dans son article 11, alinéa 3, qu'à 3 mois des élections présidentielles, la liste définitive doit être affichée. Le sens n'a que 4 mois à la CEI en 2025 pour faire une nouvelle opération de révision. Je pense que cela est vraiment impossible à la CEI.
Donc, si je comprends bien, vous avez peur que si une révision a lieu en septembre-octobre 2024, cela pourrait exclure d'autres nouveaux majeurs à partir du moment où, en 2025, ce n'est pas sûr qu'il y ait une révision avant les élections, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça. Tenez-vous bien qu'en 2020, parce qu'il n'y a pas eu de révision au cours de l'année électorale, cela a écarté la majorité de nouveaux majeurs de participer à ces élections-là. Donc, nous devons demander à la CEI de reporter cette opération au premier trimestre 2025, afin que ces nouveaux majeurs puissent être pris en compte et jouer les partitions à ces élections qui s'approchent.
Le président du groupement politique Alliance pour la démocratie et la paix, Jacob Mamadou Coulibaly, interrogé par Junior Cardin. Et nous faisons un tour au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, où le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a organisé du 4 au 6 juin dernier un atelier de formation portant sur le renforcement des compétences des autorités d'enquête et de services de renseignement dans le cadre de la lutte contre le phénomène du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et des crimes environnementaux. C'était à l'école nationale de police à Madougon, Coulibaly. Sur place, pour Radio de la Paix, Tommy Corona.
Aperçu de quelques recommandations de l'atelier énumérées ici par le lieutenant Yao de Moza de la Direction régionale des eaux et forêts du Poro.
Formation et sensibilisation de tous les acteurs intervenant dans le processus de lutte. Sensibiliser le public aux risques liés au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
Commissaire de police, expert formateur en blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, Jean-Marie Bakayoko, s'en félicite et pour cause.
C'est des procédures qui sont déjà édictées dans nos lois, il suffit que l'applicabilité soit réelle. Les participants ont pris bonne note de l'impact positif de l'applicabilité de ces procédures dans notre quotidien. Il est de notre avantage de les mettre en pratique.
Avis de quelques participants.
Chef d'escadron Kofi, nous avons pu avoir des outils assez efficaces pour pouvoir mettre en place une machine pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Capitaine Bamangolo, au niveau des agents, nous avons besoin de collaboration. Il y a certains aspects qui peuvent nous échapper par manque de vigilance.
Commissaire de police Doumbia Yaya, chef d'antenne des renseignements généraux de Boundiali. Nous avons appris vraiment les techniques de collecte des renseignements, comment est-ce que nous devons mener nos procédures pour interpeller les différentes personnes qui s'attendent à ces genres de factions.
Les bénéficiaires étaient au nombre de 25 officiers, sous-officiers et autres agents du renseignement de la police, de la gendarmerie, de la douane, des eaux et forêts, de la zone nord. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
Une note de fiscalité dans ce journal, paiement des arriérés d'impôts fonciers. Le directeur général des impôts, Ouattara Siabou, exhorte les salariés du secteur public et privé au civisme fiscal en payant leurs impôts dans les délais fixés par la loi. Passé ces délais, les réfractaires risquent de voir saisir sur leur salaire le montant des impôts fonciers dus. Jean-Claude Comé.
En effet, dans un communiqué dont nous avons reçu copie, la direction générale des impôts informe les salariés du secteur public et privé redevables d'arriérés d'impôts fonciers qu'ils sont invités à s'acquitter de la cotisation fiscale mise à leur charge dans les délais fixés par la loi. Passé ces délais, les procédures de recouvrement forcé seront mises en œuvre, notamment par la saisie de la quotité fiscale sur leur salaire entre les mains de l'employeur sans préjudice des sanctions prévues en la matière. Le directeur général des impôts indique dans ce communiqué que le paiement des arriérés mentionnés concerne tous les arriérés d'impôts des plus anciens aux plus récents et qui date de l'année 2023. Par conséquent, la mesure de recouvrement forcé ne concerne donc pas l'impôt de l'année 2024 qui n'est pas encore reçu. Ainsi, indique le texte, seules les personnes disposant de biens fonciers, des maisons, appartements, immeubles, terrains nus qui ne sont pas à jour de leurs impôts sont visées par le texte. En clair, cette mesure ne concerne pas l'ensemble des salariés du public et du privé. La DGI précise que cette décision fait partie des dispositifs légaux dont dispose l'administration fiscale pour contraindre les redevables récalcitrants à s'acquitter de leur dette fiscale. Pour conclure, l'administration fiscale rappelle que l'impôt foncier est payable en cas de fraction pour les particuliers aux échéances suivantes 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Éducation nationale à présent, le secrétaire général national du syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire, Boka Kwadio Arnaud, appelle à plus de probité de la part des acteurs de l'éducation pour la réussite d'un baccalauréat sans fraude ni tricherie. Nous l'écoutons.
Nous, à notre niveau, nous pensons que la situation s'est nettement améliorée. Il faut tout de même relever que, bien entendu, certains centres d'examen ont rapporté des faits de tricherie, mais de façon générale, on peut dire que l'examen s'est bien déroulé. Toutefois, nous pensons que la question de la tricherie est une question cruciale, due au fait que certains acteurs des examens, pas seulement les enseignants, mais autant les apprenants que les parents d'élèves, certains croient encore qu'ils devront leur succès à la fraude ou à la tricherie. Aussi, la Côte d'Ivoire, nous disons que l'éducation est quelque chose de tellement important que nous devons faire attention. La tricherie n'a jamais apporté quelque chose de positif au niveau de l'éducation. Cela dit, en ce qui concerne le baccalauréat, nous ne pouvons que rappeler les instructions données par notre ministère. Il s'agit de faire en sorte que nous ayons des examens propres et sans tricherie.
Boka Kwadio Arnaud, secrétaire général national du syndicat pour la revalorisation des personnels de l'enseignement secondaire. La cinquième édition des BAVM Awards s'est tenue les 6 et 7 juin dernier à Abidjan sous le thème « La technologie au cœur des marchés de capitaux, quels enjeux pour l'actionnariat populaire ?» Ce point culminant annuel des intervenants du marché financier de la zone UEMOA vise à explorer les implications croissantes de la technologie dans le fonctionnement des marchés financiers. Didier Blé.
Les BRVM Awards visent non seulement à récompenser les meilleures performances des sociétés, mais aussi renforcer la compétence et encourager l'innovation continue dans le secteur. Pacom Kwasi, chef de service de la communication et du marketing à la BRVM.
La bourse se demande comment faire par le biais de la technologie pouvoir attirer le maximum d'investisseurs particuliers. L'actionnariat populaire concerne justement la masse populaire. Le fait que les individus investissent en bourse constitue justement l'actionnariat populaire.
Trois leçons inaugurées. Il y aura les 6 panels pour aborder différentes thématiques, parmi lesquelles la transition numérique, la gestion des risques en finance, l'impact de l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Vladimir Raman du Centre national de cybersécurité à l'ARTCI.
Il y a matière à réfléchir pour qu'ensemble, il puisse y avoir une régulation transversale donc entre les régulateurs donc, des services financiers et tous les régulateurs qui ont créé la cybersécurité. On ne parle plus de cybersécurité, mais plus de cyber-résilience. Parce que la question n'est pas de savoir si je vais être attaqué, quand est-ce que je vais être attaqué et qu'adviendra.
Inclusion financière et épargne locale facilitée par les nouvelles technologies. Théodore Gonflet de SGI, participant venu du Bénin.
Quand nous voyons a priori la capacité de mobilisation des ressources dans nos États, on se dit toujours qu'il faut nécessairement aller à l'étranger. Il s'agit pour nous de trouver des approches endogènes pour faire remonter à travers des allocations des ressources la capacité d'épargne de notre pays.
Cette cinquième édition des BRVM Awards s'est refermée par un dîner de gala au cours duquel ont été remis des prix aux acteurs les plus méritants du marché financier régional.
Au Nigeria, les sauveteurs ont perdu tout espoir de retrouver vivants au moins 20 mineurs pris au piège une semaine après l'effondrement d'une mine dans l'ouest du pays, a déclaré hier mardi un responsable des services d'urgence. Pour rappel, le lundi 3 juin dernier, une mine s'est effondrée sur des mineurs artisanaux employés par une société minière locale dans le village de Galkogo, dans l'état du Niger. L'Agence nationale d'aide d'urgence, la SEMA, avait alors déclaré que plus de 30 mineurs étaient pris au piège, mais quelques jours plus tard, la police a ramené ce nombre à 20. Revenons en Côte d'Ivoire avec Jean-Mélène Bitti pour la revue des titres de la presse ivoirienne. Jean-Mélène, bonjour.
Bonjour Mel Emmanuel, bonjour à tous. La modification de l'article 185 du code pénal continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et cela se ressent à la une de vos journaux de ce jour. Sur le sujet, Soir Info s'est penché sur la séance plénière de délibération au Sénat hier, où Kandia Camara, présidente de cette institution, a affirmé que la loi est impersonnelle, non discriminatoire et s'applique à tous. Modification du code pénal, voici pourquoi les partis d'opposition pleurent et se roulent. roule par terre, nous informe Le Jour Plus. Parlant toujours de cette modification de l'article 185, dernière heure monde s'interroge pourquoi le nouvel article 185 du Code pénal fait si peur. Autre sujet au menu de cette revue des titres de la presse ivoirienne de ce mercredi, cet appel du comité de contrôle du PPACI à la concrétisation de l'alliance avec le PDCI. Premièrement, cette dernière heure monde qui donne le ton, présidentiel 2025, le PPACI pour une alliance forte avec le PDCI-RDA. Il est suivi par Le Nouveau Réveil qui écrit « Le comité de contrôle du PPACI, après son conclave hier, consolidons l'alliance avec le PDCI dès maintenant. L'installation d'une base américaine est annoncée en Côte d'Ivoire et là-dessus, lutte contre le terrorisme, installation de nouvelles bases américaines, comment les USA négocient avec la Côte d'Ivoire, révèle l'expression. » Autre sujet au menu de cette revue des titres, cette interpellation des États-Unis sur les déguerpissements en cours dans le district d'Abidjan qui est relayée par plusieurs journaux de ce jour. Premièrement, dernière heure monde met en page de couverture suite aux opérations de déguerpissement, les États-Unis suspendent les financements à Ouattara. À la voix originale de Di, déguerpissement inhumain à Abidjan, Washington sanctionne le régime Ouattara. Démolition de Boribana, les USA en colère contre le régime Ouattara nous informe de son côté Le Temps. Autre fait majeur qui intéresse les tabloïds ivoiriens, la lutte contre la pêche illégale. Concernant ce sujet, Soir Info revient sur les propos de Sidi Touré qui fait savoir que grâce à ce programme d'immatriculation informatisée des embarcations artisanales, la Côte d'Ivoire pourra lutter contre la pêche illégale. On termine cette revue des titres par une note sportive avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. À ce propos, Le Jour Plus invite Faye et ses poulains à revoir leurs copies. À sa suite, Fraternité Matin met en manchette éliminatoire mondial 2026, les éléphants freinés par les arambistas. Merci à vos journaux et bonne lecture.
La revue des titres des journaux ivoiriens à retrouver dans l'édition de 8h sur Radio de la Paix, toujours avec Jean-Mélène Bitti. Nous y sommes, place à l'invité de la rédaction. Il est juriste et analyste politique. Pour lui, le discours du chef de l'État à la Nation le 18 juin devant les députés et sénateurs réunis en Congrès pourrait porter sur des sujets actuels comme la cherté de la vie et l'inéligibilité de certains opposants pour cause de condamnation judiciaire. Concernant aussi le nouvel article 185 du Code pénal, récemment adopté par les députés, mais contre lequel ceux de l'opposition sont vent debout, il estime que c'est le jeu démocratique. Toutefois, ce jeu doit être conforme aux libertés prescrites par la Constitution, soutient Geoffroy Julien Kouaou qui répond à cet effet aux questions de Francis Cassis.
Geoffroy Julien Kouaou, bonjour.
Bonjour Francis Cassis.
Le 18 juin prochain, le président ivoirien s'adresse au Congrès sur l'état de la nation. Que signifie cette expression, l'état de la nation?
Vous savez que depuis l'instauration de la Troisième République, la Constitution a instauré une coutume politique ivoirienne consistant à rapprocher le Parlement de l'exécutif. Et dans ce sens, le président de la République, selon l'article 114 de la Constitution, s'adresse à la nation chaque année, et ce, devant les sénateurs et les députés réunis en Congrès. Et donc, c'est une obligation constitutionnelle du président de la République à laquelle nous allons assister le mardi 18 juin prochain.
Quand il s'adresse aux députés et sénateurs réunis ensemble, appelés le Congrès, est-ce que ces derniers ont la possibilité de répondre, de lui poser des questions?
En fait, il s'adresse à la nation ivoirienne. Cependant, cette adresse se fait devant les députés et les sénateurs. De ce qui précède, les députés et les sénateurs n'étant pas les premiers destinataires du discours présidentiel, ils ne peuvent pas subséquemment lui poser des questions. Et la Constitution est d'une extrême clarté sur cette problématique.
Donc, quelle est la portée juridique d'un tel discours du président?
Non, ce discours n'a pas de portée juridique, mais une portée politique. En ce sens que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Donc, quel que soit le contenu du message, il n'y aura aucune conséquence juridique. Cependant, sur le plan politique, les Ivoiriens attendent beaucoup du discours présidentiel. Rappelez-vous qu'en 2020, lors de son premier exercice en la matière, le président de la République avait annoncé Urbi Orbi qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Et en 2022, il a profité de cette occasion pour nommer le vice-président de la République, M. Kone Temoko Meile. Et en 2023, il a pris un certain nombre de décisions allant dans le sens de la sécurité de la Côte d'Ivoire.
En général, quel sujet aborde le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation.
Il vient devant la nation à travers ses représentants que sont les députés et les sénateurs pour dire que voilà ce que j'ai fait pendant une année sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Voici ce que je compte faire les mois qui suivent jusqu'à l'année prochaine.
Alors donc, pour le 18 juin, quel est, selon vous, le sujet le plus important ou les sujets les plus importants qu'il doit aborder?
Je pense que le premier sujet, il est d'ordre social. La cherté de la vie, l'inflation, l'augmentation, par exemple, des factures de la CIE et autres. Deuxième question, d'ordre économique, c'est la question de la dette. La Côte d'Ivoire est un pays extrêmement endetté pour l'opposition, moyennement endetté pour l'exécutif. Dans tous les cas, cela fait débat et inquiète la population. Et enfin, sur le plan politique, il ne pourra pas éviter la question de 2025. Quand on sait très bien que les principaux leaders politiques de l'opposition, que sont M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et M. Soro Guillaume, pour l'instant, au regard de leur statut pénal, ne pourront pas participer à cette élection, ce qui peut jeter un point d'ombre sur l'organisation de ce scrutin.
Alors, il y a un autre sujet qui, à mon sens, vient s'ajouter aux différents sujets qui pourraient être abordés par le chef de l'État, notamment l'article 185 nouveau qui vient d'être voté par les députés. Il y a un bloc qui est pour, ça a été voté, et puis il y a l'opposition, notamment le PPACI qui est contre cet article, qu'il déclare liberticide. Est-ce que le chef de l'État pourrait en parler?
Tout va dépendre de lui. Il a un pouvoir discrétionnaire. Mais je pense qu'il devrait en parler, puisque aujourd'hui, ça fait débat au niveau du Parlement. Surtout que cette question concerne les libertés fondamentales protégées par la Constitution. C'est un projet de loi qui est aujourd'hui devenu une loi par la volonté des députés. Ce projet de loi est donc d'origine présidentielle. Et donc, il serait le mieux placé pour en donner quelques précisions.
Alors, pour vous, en tant que juriste et analyste politique, le débat entre l'opposition parlementaire et les députés proches du pouvoir, la loi a été votée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les uns disent que le nouvel article 185, c'est liberticide, notamment l'opposition.
La majorité a tranché. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. Mais dans tous les cas de figure, rien n'a encore fait. Parce que tout ce qui concerne, par exemple, les libertés publiques peuvent être déférées devant le Conseil constitutionnel. Donc, les députés, même les associations des droits de l'homme, peuvent, avant sa promulgation, déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, va se prononcer. Dans tous les cas de figure, tout ceci montre bien que nous sommes dans une dynamique démocratique et c'est une très bonne chose.
Alors, la démocratie, comme le disait un professeur de droit, c'est la dictature de la majorité. Vous êtes d'accord?
Oui, c'est la dictature de la majorité dans le respect des droits de la minorité. Dans tous les cas, la loi s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, ceux qui ont voté cette loi peuvent être demain dans l'opposition. Et on verra. Dans tous les cas de figure, lorsqu'on vote une loi, on doit penser plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt égoïste. Parce que la démocratie, par essence, est libérale. Elle repose sur la liberté. Et dans une démocratie, l'un des critères de la vitalité démocratique, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de réunion, la liberté d'action, la liberté d'aller, la liberté de venir. Et toute mesure allant dans le sens de restriction de cette liberté écorne dangereusement la démocratie.
J'ai au froid Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Francis Okafi.
C'était l'entretien avec l'invité de la rédaction, Geoffroy Julien Kouaou. Il est juriste et analyste politique. Maintenant, le rappel des titres de ce journal. Élection présidentielle de 2025. Les missions terrain de cartographie sont faites pour actualiser les lieux d'enrôlement et de vote et n'ont rien à voir avec le découpage électoral, déclare le président de la commission électorale indépendante CEI. Paiement des arriérés d'impôts fonciers. Le directeur général des impôts exhorte les salariés du secteur public et privé au civisme fiscal en payant leurs impôts dans les délais fixés par la loi. Passé ces délais, les procédures de recouvrement forcé seront mises en œuvre. Et puis hors de notre pays, plus d'une semaine après l'effondrement d'une mine au Nigeria, il n'y aurait plus d'espoir de retrouver des mineurs vivants, déclarent les services d'urgence. Fin de ce journal, merci d'être resté jusqu'ici, l'info revient dès 8h.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.